Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine qui se veut une transformation du podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Femmes, nous sommes à l'ère de la souveraineté. Il est maintenant temps de reprendre en main le processus de naissance, temps de reconnecter avec notre potentiel et notre pouvoir de choisir. Nos bébés n'attendent que ça pour devenir souverains à leur tour. Il est maintenant temps d'assumer tes réels désirs de naissance avec toute ta capacité à accueillir ce qui est durant ce chemin de naissance. Je suis Geneviève Talbot, co-créatrice de Transformation Essentielle et j'accompagne les femmes à devenir souveraines dans leur choix de naissance. Allô, allô, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée, Sarah Gaumont, qui est nutritionniste. On va regarder un petit peu nutrition, grossesse, pendant l'allaitement, pendant l'introduction des solides pour les bébés, puis peut-être plus. On verra comment ça va. Allô, Sarah.
Bonjour, Geneviève.
Merci de ta présence, d'être là sous mon invitation. Je suis bien contente de te recevoir.
Merci de l'invitation.
Mais ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui t'a mené à devenir nutritionniste, toi?
Oui, bonne question.
C'est quoi ton histoire? Ouais.
En fait, durant le secondaire, ben, faut toujours choisir nos cours en fonction des questions qu'on peut faire plus tard. Puis, tu sais, je pense qu'en secondaire 4, il faut déjà faire des demandes pour... Bref, il faut y penser le bonheur à qu'est-ce qu'on veut devenir. Puis moi, je ne savais pas trop. Fait que j'ai été voir plusieurs orienteurs. Le métier de nutritionniste ressortait parmi le métier d'orienteur aussi. T'sais. Il y avait comme plusieurs choses qui ressortaient. Et rien nécessairement m'interpellait rapidement comme ça. Puis c'est une fois, chez mes parents ont un spa, puis j'étais dans le spa avec mon père. On discutait de tout et de rien. Puis là, il me dit, ça, t'aimerais pas ça être... ben, je sais pas, tu me dis être nutritionniste, mais travailler avec les animaux. T'sais. Il dit, tu regardes souvent qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui serait plus intéressant à ce qu'on mange, tu regardes les valeurs nutritives, tu t'intéresses à la cuisine, tu cuisines beaucoup. Je suis comme, ah, c'est vrai, dans le fond, peut-être que j'aimerais ça. Fait que là, j'ai regardé un petit peu là-dessus, sur la nutrition, je suis comme, ouais, je pense que ça m'intéresserait ça. Et tu sais, c'était aussi banal qu'une petite discussion avec mon père dans le spa pour me piquer la curiosité de devenir nutritionniste. puis moi, ben en fait, j'ai fait mon cégep à Montmagny, petit cégep. On était 9 étudiants. Là.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, j'avais des bonnes notes, mais j'étais dans la moyenne. Tu sais, j'avais pas des notes extraordinaires. Puis, ben ma cotère faisait en sorte qu'elle n'était pas nécessairement extraordinaire non plus. J'ai fait mon cégep en 3 ans parce que je faisais de la gymnastique, puis je voulais poursuivre là, mon sport.
Mm-hmm.
Puis, après 3 ans, ben, je n'ai pas réussi nécessairement à rentrer. Moi, je voulais rentrer à l'Université Laval en nutrition. Ben, là, la cote était assez élevée. Donc, j'ai fait un an au campus d'Edmonton, qui faisait partie de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick,
OK.
pour comme faire une passe tout droit là, pour essayer d'augmenter soit mes notes ou, dans le pire des cas, ben, faire toute mon université au Nouveau-Brunswick. Donc, c'était mes options. C'était soit, en fait, que j'aille au Nouveau-Brunswick, soit que j'aille à l'Université d'Ottawa ou que je fasse un autre programme en attendant d'augmenter mes notes pour entrer en nutrition. Puis finalement, mais j'ai fait un an à l'Université de Moncton, mais au campus d'Edmonton. Puis, j'ai été acceptée en nutrition à Laval. Mes notes étaient super bonnes. Puis, je faisais partie, bizarrement, des étudiants étrangers parce que je postulais d'une autre province.
Non, ben
Fait que les
drôle,
places
ça.
étaient comme limitées. J'avais comme une liste
Réservé.
réservée, ouais. Donc,
Écoute.
j'ai réussi à rentrer à Laval. Puis, mon bac était 3 ans et demi. J'ai fait du cheerleading en même temps. Mon expérience à l'université était vraiment super intéressante. Puis, j'ai eu la chance aussi de faire un stage en international au Sénégal pendant 3 mois. Justement pour les cours de nutrition. Puis ça m'a vraiment amené une belle ouverture d'esprit sur tout ce qui est l'équité, acheter local, les aliments équitables, puis aussi l'alimentation durable. Donc, ça m'a amené une belle ouverture par rapport à ça. Puis quand j'ai gradué, en fait, nous, on gradue, vu que notre bac est de 3 ans et demi, on gradue au mois de décembre. Puis, je suis partie, en fait, en voyage avec mon chum pendant 3 mois. A suivi la pandémie. On était obligé de revenir à cause de la pandémie. Puis, j'ai
Ah, OK.
commencé à travailler là, pendant la pandémie pour le site de Chaudière-Appalaches. J'ai fait plusieurs petits centres de services, là. Bref, j'ai fait l'hôpital de Lévis, un peu à l'hôpital de Montmagny, CLSC à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, c'était toujours une cliente. Ben, en fait, j'ai fait plusieurs types de clientèle, plusieurs types de travail, puis il me manquait toujours un petit plus. Je ne savais comme pas trop quoi, mais j'ai comme un petit besoin de créativité. Puis, tu sais, j'aime, en fait, informer sur l'alimentation, tout ça. Tu sais, donc, donner des conférences, donner des ateliers, c'était quelque
Enseigner.
chose qui, oui, c'est ça, enseigner, quelque chose qui me parlait beaucoup. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah, ben, je vais me partir un peu à mon compte sur le side, là, d'être nutritionniste pour le gouvernement. Donc, je trouvais que c'était un bel entre-deux. Donc, c'est pour ça que, ben, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, parce que je suis
Mais
nutritionniste à mon compte, puis j'ai la chance, en fait, de pouvoir offrir des services qui me plaisent, tu sais, en fait, que je peux décider vraiment là, en fonction du type de clientèle que je décide, comme en fait du type d'intervention que je décide aussi. Donc, tu sais, je fais autant des consultations en individuel, donc un adulte ou pour un enfant, là, une problématique quelconque, on en parlera peut-être, là. Mais puis des ateliers, des conférences, que ce soit encore une fois pour la jeunesse ou pour l'adulte, tout dépendant là, des entreprises qui me demandent, là. Donc, c'est ça. Voilà.
Fait que tu sais, depuis que tu as eu tes enfants, est-ce que tu as ciblé davantage tout ce qui est périnatalité ou famille
Ouais,
ou...
oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que avant d'avoir des enfants, la nutrition à la jeunesse, bon, c'était quelque chose que je connaissais pas tellement, donc qui m'interpellait moins. Mais effectivement, depuis que j'ai eu des enfants, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Puis, en fait, en faisant de plus en plus des consultations à l'adulte, on se rend compte que, tu sais, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, ben, ça part jeune. Donc, tu sais, c'est dans la jeunesse que ça peut se travailler pour faire un adulte un peu plus, peut-être des fois, intuitif au niveau soit des reconnaissances, des signaux de faim de satiété ou juste des aliments qu'il consomme, des aliments aimés. Donc, c'est pour ça que la nutrition chez l'enfant m'interpellait beaucoup parce que j'ai des enfants, donc c'est sûr que ça m'intéresse, mais aussi parce que je me rendais compte que les habitudes alimentaires, ben, crime, ça peut se modifier un peu plus dans la jeunesse pour que plus tard tout se passe un petit peu mieux, puis que peut-être qu'il y ait moins d'adultes qui consultent en nutrition.
C'est vraiment un volet de prévention, là,
Oui,
hein?
exact. La
C'est vraiment.
prévention est, oui, vraiment, elle est là à la jeunesse.
Pendant la grossesse, est-ce qu'il y a des. Qu'est-ce qu'on doit observer? Y a-t-il des changements qu'on doit faire? Des ajouts, des retraits d'aliments? Qu'est-ce que tu
Oui,
suggères, toi?
effectivement, ben, c'est sûr que pendant la grossesse, il y a des aliments qui sont à éviter, il y en a qui sont à limiter, puis il y en a d'autres qui sont à prioriser. Donc, puis tu sais, il y a aussi le mythe là, de oh, surtout qu'on est enceinte, on peut manger pour deux. Bon, ça, c'est une chose qu'il ne faut pas nécessairement penser, tu sais, parce que oui, on a un petit bébé en construction, mais les besoins ne sont pas augmentés de
En
deux là,
double.
dès le départ. Non, c'est ça. Surtout dans le premier trimestre, il n'y a nécessairement aucun changement au niveau des besoins nutritionnels. Pendant le deuxième trimestre, ça augmente un tout petit peu. À raison là, là, je me souviens plus par cœur, là, mais c'est environ, mettons, 200 calories, on va dire ça comme ça. Puis pendant le troisième trimestre, c'est un peu plus comme 340. Bref, ça augmente un tout petit peu, mais c'est pas énorme. C'est pas un double repas, là, double repas de la journée. Fait que, tu sais, en prenant quelques collations plus que notre grossesse avance. Puis de toute façon, nos signaux de faim aussi, en théorie, sont supposés augmenter.
S'ajuster.
S'ajuster exactement si on a déjà des bonnes bases de reconnaissance de ces signaux-là. Parce que, tu sais, c'est souvent ce que je retravaille chez l'adulte qui vient me consulter. Tu sais, avec nos habitudes alimentaires, on a tendance des fois à perdre on peut les retrouver plus tard là, avec du travail, là, mais on a un peu plus de difficulté à bien reconnaître nos signaux de faim et nos signaux de satiété. C'est sûr qu'en essayant du mieux possible de les écouter, bien, on peut mieux répondre à nos besoins nutritionnels ou aux besoins tout autres, là. Donc, fait que pour ce qui est de la quantité d'aliments, bien, c'est sûr qu'on y va graduellement, puis on oublie le mythe de manger pour deux.
Suivre sa faim, et tout
Oui,
simplement, hein,
exactement.
c'est ça.
Exactement.
C'est un défi des fois, là, mais...
Oui, puis tu sais, surtout des fois au début de grossesse, avec des reflux, avec des vomissements, des nausées, c'est un peu plus difficile là, de suivre. Là. Des fois, on n'a pas faim ou tu sais, on veut manger. Des fois, on a
Ouais.
des goûts aussi, des aversions, mais on a aussi
Ouais.
des goûts spécifiques. Puis ça, ben comme chaque grossesse, puis chaque enfant est unique, ben chaque goût par grossesse est unique aussi. Moi, vraiment, sur 3 grossesses, c'est 3 grossesses complètement différentes là, en
Ah
termes
oui.
d'aversion puis de goût alimentaire. Ma première grossesse, j'avais le goût des choses froides, là, des fruits, là, je pouvais manger un melon d'eau en entier en 2 jours, des casses de fraises, des clémentines, hein, je mangeais des fruits à côté. C'est pas parce que je suis nutritionniste, j'avais le goût de manger des fruits. C'était ça. Deuxième grossesse, j'avais le goût de manger. C'était moins. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'était une fille, mais j'avais moins des grosses rages alimentaires, là. T'sais, des fois, j'avais plus le goût d'aliments spécifiques par-ci, par-là. Mais à la fin de ma grossesse, j'avais le goût de manger des brownies. Vraiment, là, ça, des brownies, c'était Sydney, elle aimait ça. Et à cette grossesse-ci, c'est du salé. Amenez-moi
OK.
tout ce qui est salé, là, mais pas de sucré.
Ah, tu vois.
Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est
C'est dû
important. Oui.
à quoi, tu sais-tu? Ou c'est juste
C'est les
comme
hormones,
ça?
écoute.
C'est juste
Moi,
les
j'en
hormonaux.
sais pas. Moi, c'est ça. J'en sais pas bien ben plus, là, mais c'est très hormonal, là.
OK.
Fait que, c'est important de respecter ces goûts-là, là, en fait, là.
Ouais.
Mais, tu sais, si on peut revenir, là, tu sais, quand on est plus en nausée, en vomissement, au début de grossesse, là, ben, tu sais, des fois, il y a des petits trucs qui peuvent être faits. Puis d'ailleurs, tandis que j'y pense, il y a des belles ressources des fois sur Internet, là, au niveau de. Bon, il y en a dans Naître et Grandir, des belles ressources, là, des beaux outils qu'on peut retrouver, que ce soit pour grossesse ou que ce soit à l'enfance aussi. Il y a des beaux outils, mais il y a aussi la Fondation Holo, qui est une fondation Holo, c'est Oeuflet et voyons.
Orange.
Orange, oui,
Orange.
c'est ça. Avant, c'est ça, exactement, ça s'appelait comme ça. Donc, la Fondation Holo, sur leur site Internet, il y a des super beaux outils qui peuvent être téléchargés, des outils gratuits. Puis, il y a aussi le dispensaire diététique de Montréal qui a aussi des beaux outils. Des fois, il y a des webinaires gratuits. Il y a des belles choses qui peuvent se passer là-dessus. Bref, je tenais à le mentionner parce que c'est ça. Je trouve que c'est important, des fois, de bien s'outiller par rapport, que ce soit à la
Ouais.
grossesse ou à l'alimentation.
On mettra le lien, je mettrai le lien dans la
Oui.
description de l'épisode, fait que ça va être facile pour les gens de...
Oui.
Tu me dis dispensaire diététique de Montréal, je connais
Oui.
pas, on va aller voir ça.
Je connaissais pas avant non plus d'être nutritionniste
Tu parlais tout à l'heure
d'avoir
de
des
nausées,
enfants.
de
Oui, c'est
reflux.
ça, des petits trucs, en fait, là, surtout quand plus nausées, vomissements, qu'on n'a pas le goût nécessairement de manger, mais qu'à un moment donné, je veux dire, il faut s'alimenter, il faut se donner des petits nutriments à l'intérieur de nous. Tu sais, des fois, c'est de manger plus fréquemment. Donc, à la place d'avoir 3 gros repas dans la journée, ben, ça peut être 6 petits repas, puis ça va être bien correct comme ça. Puis, des fois, des aliments froids, des aliments frais vont passer mieux que des aliments chauds avec des saveurs un peu épicées. Ça passe moins bien souvent quand on a la nausée, tout en essayant de respecter aussi nos goûts puis nos aversions. Fait que, tu sais, c'est le froid, puis les plus petits repas fréquents. Puis des fois, quand on n'est pas capable nécessairement de manger, bien, ça peut être de le prendre de façon liquide. Tu sais, un verre de lait, ça peut nous nourrir aussi, un smoothie, qu'on met plein de choses à l'intérieur qui peut être froid. Tu sais, des fois, de prendre ça liquide, c'est plus facile que de le mastiquer. On a peu faim, là. Ça peut être un bon truc, là.
C'est vrai que ça peut être bien nourrissant,
Ouais.
effectivement.
Puis à la
Puis
limite, ben, il y a des suppléments nutritionnels oraux, là, liquides, là, style le Boost puis les Ensures de ce monde, là, à la dernière limite. Puis si jamais ça devient une problématique, ben, vous pouvez toujours consulter le médecin ou aller voir un
ouais.
nutritionniste là, pour des trucs comme ça aussi.
Parfait. Est-ce que pendant l'accouchement, T'sais, on a besoin d'énergie, on ne veut pas tant que ça manger. Ben, pas qu'on ne veut pas, mais on n'a pas toujours le goût beaucoup de manger. Y a-tu des aliments, là, comment je dirais bien, miracle, pas miracle, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, qui se digèrent bien, qui se prennent rapidement, mais qui donnent un boost, là, un boost d'énergie. Qu'est-ce que tu suggérerais?
Il n'y a pas nécessairement d'aliment miracle, là, tu sais, c'est sûr que ça, c'est très individualisé, tu sais, donc ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on a le goût. Puis c'est sûr que des fois, on a moins le goût de manger. Puis encore une fois, ça va être plus facile de boire nos aliments ou boire un liquide. Fait que, tu sais, l'important, c'est de s'hydrater. Fait que, un, tu sais, si on est juste capable de prendre de l'eau, ben ça sera ça. Dans le pire des cas, on peut prendre, tu sais, de l'eau avec des électrolytes à l'intérieur. Sinon, tout ce qui est breuvage nutritif, tu sais, un lait, une boisson végétale, à la limite, si t'es capable de, si t'aimes mieux prendre ton lait au chocolat, mais ça peut être ça aussi, là, tu sais, en autant qu'on mette quelque chose à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, si encore plus tu es capable de te faire quelque chose encore plus nourrissant, tu sais, ben là encore là, un smoothie pourrait être le best là, pour se mettre des fruits qui soient frais congelés à l'intérieur. On peut se mettre du yogourt grec, des poissons végétales, des graines, du beurre d'arachide, bref, tout ce qu'on est capable de digérer, mais reste qu'on ne veut pas nécessairement prendre le gros repas parce que de toute façon, vous
N'a
allez
pas
le
le goût.
ressentir, je l'ai ressenti, on n'a pas le goût nécessairement de manger, on veut boire. Fait qu'il faut y aller selon nos préférences, puis comment on se ressent. Moi, à Maverick, en fait, à ma première grossesse, j'avais le goût de manger. Mais là, il m'avait dit, non, non, tu peux pas manger, là. Tu vas les déclencher, puis on veut pas que tu manges. Bon, OK, fait que je me suis hydratée avec de l'eau parce que c'est ça que j'avais, puis tout dépendant aussi si le travail est long ou pas. Et quand le
Ben
travail
oui,
est
parce
long, ben
qu'un
là, c'est
travail est
sûr qu'on
long.
doit... On doit s'hydrater puis se nourrir un petit peu plus fréquemment. Donc, tout perdant des préférences puis de ce que vous êtes capable de prendre, là, c'est sûr que, comme je mentionnais, là, les smoothies, les boissons végétales, le lait, à la limite, là, ça peut très bien soutenir sur le court-moyen terme. Là. Puis, de toute
Parfait.
façon, ben, un coup que le travail est passé, ben, là, l'appétit revient.
Ah oui, et hey, Caroline, oui. Ah, moi, je me
Là, c'est
suis. Moi,
vrai qu'on
j'ai.
mangerait pour deux.
Moi, j'ai eu des travails d'accouchement très longs. Écoute, j'en avais pour une semaine, des fois, après, à pas me sentir rassasiée, là. J'ai
Oui, ah oui.
faim tout le
Puis
temps,
avec les
faim.
hormones, oui.
Aïe, aïe, aïe. Moi, je m'en souviens, c'était intense, là. C'était vraiment intense.
Puis des fois, quand on allaite, ben c'est encore plus intense. T'sais, nos besoins sont encore un petit peu plus élevés aussi. Fait que c'est... Oui, effectivement.
Ouais, à ma première accouchement, à ma première fille, j'avais. Ça m'a pas fait ça tant que ça aux autres. Ouh, des fois, le temps, c'est ça, change les souvenirs un peu, là, mais. Je m'assoyais pour allaiter, elle avait comme deux, trois tétées de pris. Puis quand le réflexe d'éjection embarquait, elle, là, écoute, j'avais soif, là,
Ah oui,
jusqu'ici, là,
ah
c'était
ouais.
sec, sec, sec. Puis je
Ah
disais,
oui,
mon
non, ça c'est
chum,
quelque
amène-moi un verre
chose.
d'eau. Hey! Tu sais,
C'est
quand
toujours à ce
tu.
moment-là qu'on n'y a pas pensé, hein, tu sais, d'apporter une collation, d'apporter des bouteilles d'eau. Pour
Ben,
ça,
il y a comme
l'importance
un.
d'avoir une station d'allaitement avec tout ce qu'il faut tout le temps dedans, là. Tu sais, des fois,
Tellement.
le conjoint ne sait pas nécessairement
Quoi
quoi
faire?
faire comme rôle, tout ça, dans l'accompagnement, tu sais, surtout quand la maman veut allaiter, là, ben, une des principales choses, là, qui peut être faite, c'est de s'assurer que maman ait toujours quelque chose à boire, quelque chose à manger à sa station d'allaitement, parce que, comme tu l'as dit, quand le réflexe d'éjection est là, là, amenez-moi de l'eau parce que on a
Hey,
soif.
tu sais, on dirait que ça part d'un coup, puis je m'en souviens, là,
Ouais.
tu peux pas dire je vais boire après la tétée. Non, non,
Non,
c'est.
non, c'est là.
T'es déshydraté.
Ouais.
Ah, oh, c'était
Oui.
quelque
Puis pendant
chose
les
d'intense.
premières semaines, là, je pense que, je ne sais pas si c'est dans la théorie, mais moi, je les ressentais toujours plus intenses. Dans les premiers réflexes d'éjection, dans les premières semaines, là, c'était amenez-moi de l'eau, là.
Ouais, c'est ça. Mais station d'allaitement,
Ouais.
effectivement, absolument nécessaire.
Oui, toujours
Non,
avoir de quoi
toujours.
à manger parce que, tu sais, l'allaitement peut durer longtemps. Puis si on est tout seul à la maison, là, plus ardu, là, d'aller chercher
Ouais.
quelque chose dans le garde-manger dans le frigo.
Une question comme ça, je me suis jamais tant que ça posé la question parce que j'ai toujours suivi plus de ce que j'avais le goût de manger puis ce qu'on sait qui est bon, mais y a-t-il des aliments qui favorisent la production de lait ou une bonne mise en place d'allaitement ou pas vraiment? Parce que souvent, on parle de l'allaitement qui donne des coliques, là, des affaires de même, mais ça, on sait que c'est plus
Oui.
d'actualité, mais.
Ben, c'est sûr que tu sais, l'alimentation en général, puis surtout l'hydratation, va favoriser une bonne production de lait, un bon allaitement. Mais les aliments galactogènes, c'est un peu comme l'avoine qui va aider à la production de lait. Mais tu sais, c'est pas encore une fois, c'est pas miracle. Ça peut aider, mais ça veut pas dire que ça va avoir un grand impact. Fait que c'est sûr que ça peut, en dernier recours, on peut faire des fois des recettes là, avec des aliments galactogènes, là, mais c'est sûr que t'sais, déjà de un, d'avoir une bonne hydratation, je pense que c'est déjà la base, puis d'avoir une assiette un peu équilibrée dans le sens que t'sais, on a notre source de protéines, on a nos fruits et légumes, puis on a notre féculent, notre produit céréalier, des aliments à grains entiers. On sait qu'on a ça dans notre alimentation, ben on sait qu'on a quand même une alimentation équilibrée.
Puis je reviens un peu en arrière avant l'allaitement.
Oui.
J'ai appris cet hiver, ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, mais j'ai appris ça, les dates. Parce que j'avais une Marocaine dans mes cours, puis elle disait que dans leur culture, eux autres, ils prenaient beaucoup de dates, puis que ça favorisait le déclenchement du travail. Puis je suis tombée sur une recherche. Moi, je suis tombée sur une recherche qu'ils ont fait justement en. Ben justement, c'est pas proche, là, mais en Jordanie, sur les dates, ça réduit ça peut réduire la longueur du travail, ça améliore l'efficacité des contractions et tout ça. Je ne sais pas si tu
Pendant
en
le
avais.
travail. OK. Non,
Ouais,
j'ai jamais
ben
entendu
pendant le
parler.
travail, tu sais, mais c'est comme en fin de grossesse, là,
Oui.
on peut y aller sur les dates, là.
OK. Ah, écoute, je vais
Ouais.
m'informer là-dessus. C'est
Ben, je pourrais
intéressant. Des
te.
fois,
Je
c'est des
sais.
trucs culturels, hein, que quand c'est
Ben.
partagé comme ça, c'est super intéressant.
Oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est les dates Medjool, je pense.
Oui, Medjool.
C'est ceux-là, c'est
En
celle-là. C'est pas les
particulier.
dates
OK. Un
séchées.
petit note.
Oui.
Regardez ça.
Parfait. Fait qu'au niveau de l'allaitement, introduction des solides chez le bébé. On parle beaucoup de DME maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Ouais,
Qu'est-ce que j'en
dis-moi ça.
pense? En fait, tu sais, ce qui est recommandé, là, c'est que on n'introduit aucun aliment avant 4 mois. Fait que ça, c'est sûr que le 0-4 mois, on veut seulement que le lait maternel ou les préparations commerciales pour nourrissons. Puis après ça, ben là, c'est tout dépendant de qu'est-ce qu'on veut offrir, puis tout dépendant aussi voyons, des antécédents médicaux ou de la santé de bébé, tout dépendant si il y a déjà des allergies qui soient alimentaires là, chez bébé ou dans son entourage, s'il y a de l'eczéma. Bref, des fois, il y a des choses qu'on veut introduire certains allergènes plus tôt que chez d'autres bébés. Mais dans la théorie, quand on veut alimenter un bébé, on parle plus là, on veut commencer l'introduction des aliments autour de 6 mois. Là, après ça, ben, c'est aux parents et au bébé de décider s'il veut faire la méthode traditionnelle de la purée à la cuillère ou de la diversification alimentaire menée par l'enfant, qu'on connaît sous le nom de DME. Puis ce qui est à se rappeler, je pense, de ce petit bout de cette capsule-là, en fait, c'est que ce n'est pas nécessairement juste nous qui va décider, bébé aussi va décider de comment il a le goût de s'alimenter. Parce que, tu sais, l'alimentation, il faut garder ça intuitif, il faut garder ça plaisant, tout ça. Il y a des bébés, en fait, qui vont être un peu plus passifs, puis qui vont aimer ça, se faire nourrir à la cuillère, puis ça peut être correct comme ça aussi. Puis il y a des bébés beaucoup plus explorateurs, qu'eux, ils vont vouloir prendre les aliments dans leurs mains, les toucher au niveau de la texture, les sentir, les goûter. Puis, ben, c'est ce qui est que la diversification alimentaire menée par l'enfant vient aussi aider chez ces enfants-là qui ont beaucoup un besoin, tu sais, d'exploration. Fait que, tu sais, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on peut aussi faire un mix des deux. L'important, c'est de respecter le besoin de bébé, puis respecter aussi nos besoins. Il n'y a pas nécessairement plus d'étouffement chez les bébés DME que les bébés alimentés de façon traditionnelle dans la science. Tu sais, si on veut faire une alimentation plus type DME, ben c'est bien aussi de s'outiller, de soit faire une formation avec une nutritionniste, lire des livres par rapport à ça. C'est parce que c'est sûr qu'il y a certains principes. T'sais, on ne va pas offrir, je ne sais pas, un raisin rond à un bébé, on s'entend, tu sais que des fois, on dit, ben, ça va de soi, mais certains, il y a de la texture qu'il faut adapter, des grosseurs de portions, tout dépendant, pas de portions, mais d'aliments, tout dépendant le stade où est rendu le bébé. Fait que, tu sais, faut bien s'outiller, mais reste qu'on peut faire les deux, tu sais, on peut autant offrir des cuillères à bébé que, puis bébé peut explorer avec ses mains. Fait que, souvent, on voit chez les parents, puis je m'inclus là-dedans parce que je suis un parent, là, t'sais, on veut faire le mieux pour bébé, puis on veut, des fois avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile de se comparer, puis de vouloir tout essayer, tout faire, là. Mais il faut essayer de se mettre le moins de pression possible. Puis, t'sais, si on veut y aller avec la DME, bien parfait, mais mettons-nous pas de pression, t'sais, faut que ce soit parfait. Puis, t'sais, ça se peut que bébé, ils veulent découvrir avec ses mains, mais ils veulent aussi que parfois, tu sais, on donne une cuillère. Puis par contre, on peut aussi donner des cuillères pré-remplies. Ça, c'est intéressant chez les bébés parce que dans la DME, toute texture des aliments est acceptée. Comme dans notre alimentation, tu sais, nous, on va autant manger des aliments croquants que de la compote, des yogourts qui sont style purée. Fait que chez bébé aussi, ça peut être ça. Ça nuit à aucun développement parce que ça fait partie d'introduction de toutes les textures d'aliments. Donc, on peut déjà pré-remplir une cuillère, mettons, de yogourt ou de compote, déposer ça sur la tablette, puis bébé va prendre sa cuillère ou va prendre ses mains, puis va prendre la purée dans ses mains, puis c'est correct comme ça, t'sais. Il y a rien qui est coulé dans le béton. Mais pourquoi on parle beaucoup de la diversification alimentaire menée par l'enfant depuis quelques années, c'est que ça mise sur l'autonomie de bébé, puis sur la reconnaissance de ses besoins aussi. Fait que, tu sais, c'est lui qui va décider quand il commence à manger, puis quand il arrête de manger aussi, quand il n'a plus faim. Fait que pour essayer d'optimiser sa reconnaissance des signaux de faim, de satiété, de quel aliment aussi qu'il a le goût de manger. Tu sais, si on y présente plusieurs aliments, ça se peut qu'il ait juste le goût, juste, on va dire, de manger ses fraises, puis ça peut être correct comme ça aussi pour ce repas-là. Puis c'est ce qu'on travaille souvent dans la jeunesse, c'est on essaie d'avoir plusieurs rôles dans l'alimentation. Tu sais, le parent a plusieurs rôles. Le rôle du quoi offrir, c'est des aliments qui sont nutritifs. C'est nous qui déterminons la qualité des aliments. On détermine où est-ce qu'on va le manger. Donc, on va déterminer est-ce qu'on mange à la table, on mange en pique-nique, on mange-tu à la maison, au restaurant. Donc, c'est nous qui déterminons le où. Quand qu'on va manger, donc est-ce qu'on mange à midi, on mange à midi et demi, bon, on détermine le moment. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit le quand, le quoi, puis en fait, le seul rôle de l'enfant, c'est le
Le
combien,
com.
puis le si il va le manger. Le
OK.
comment, en fait, c'est le parent. Le comment, ça peut être justement, on mange avec des ustensiles, on mange avec nos mains, on mange en pique-nique. Aussi l'ambiance, c'est au repas, est-ce que ça va être plaisant? Ça va être comment l'environnement autour de l'alimentation. Puis le seul rôle de l'enfant qu'on essaye de conserver le plus longtemps possible, puis en fait, on essaie de le conserver toujours, c'est le combien il va le manger, puis s'il va le manger. Puis c'est pour ça la DME, c'est aussitôt ben en fait, ça commence pas à la DME, ça commence à l'allaitement, normalement, le bébé. Il va déterminer de s'il prend le sein, puis de combien il a le goût de prendre de son lait. Tu sais, est-ce qu'il veut un sein, deux seins, trois seins? C'est lui qui va déterminer la quantité. Puis c'est ce qu'on essaie de poursuivre à la petite enfance pour qu'à l'adulte, l'adulte devienne un peu plus compétent, intuitif au niveau de l'alimentation. Fait que c'est ce qu'on veut avoir d'un jeune mangeur. On veut qu'il soit intuitif, qu'il soit compétent à manger puis à bien reconnaître ses signaux. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de conserver le combien puis le si à l'enfant le plus longtemps possible. T'sais, si à ce moment-là, il ne veut pas manger ses carottes, puis c'est correct, il mangera ses autres aliments en essayant toujours de ne pas mettre de pression, t'sais, de finir ton assiette ou mange
Si tu veux
ça
ton
parce que
dessert.
exactement. Fait que t'sais, il y a des fois des technique comme ça, mais à dire, à ne pas dire. Mais tout ça pour dire que la DME favorise là, le partage des responsabilités qu'on appelle là, chez l'adulte puis chez l'enfant.
Ça, c'est intéressant. L'histoire de mange tes carottes si tu veux ton dessert. Y a-t-il d'autres petites phrases de même là, qui sont qu'on pourrait avoir tant... comment je dirais? Qu'on peut avoir envie
Culturellement, on pourrait.
d'éliminer. Ouais, ben tu sais, parce
Oui,
qu'ils
qu'on
sont
peut
là, on
dire
les a
oui,
entendus, eux
exactement.
autres, tu sais.
Oui,
Là, les
exactement.
autres petites phrases là, à faire attention, mais à observer au moins.
À observer. En fait, bon, le justement, finis ton assiette si tu veux avoir ton repas. On essaie d'oublier ça, puis on essaie peut-être de, à la place de faire ça, on essaie de mettre le dessert, entre guillemets. T'sais, un dessert, en fait, c'est juste un aliment qui va finir notre repas, mais on essaie de l'inclure dans le repas en général. Fait que si on a opté que le dessert ce soir, c'était un casseau de fraises, bien, on le met au centre de la table ou on le met sur la tablette déjà avec tous les autres aliments pour le bébé ou pour la famille.
Pour qu'il
Ça,
y ait le choix de...
c'est ça. Puis dans ma pratique, moi, j'essaie beaucoup de l'inclure là, chez les jeunes familles, d'essayer d'avoir, puis je le partage beaucoup dans mes réseaux sociaux, d'essayer d'avoir un repas au centre de la table. Puis ici, on n'est pas habitué, mais si on s'en va en Europe, là, honnêtement, c'est ce qui fait la plupart du temps, les repas au centre de la table. Fait que tout est présenté au centre de la table, puis tout le monde peut avoir accès en tout temps, dans la quantité, dans le s'il veut le manger aussi, que ce soit de l'entrée au dessert. Fait qu'on mange des fraises en dessert, qu'on mange une compote de pommes, qu'on mange un brownies, qu'on mange un muffin, il est mis au centre de la table, puis on y a accès. Fait comme ça ne fait pas en sorte que l'aliment est mis sur un piédestal. C'est un aliment présenté comme un autre, puis qui n'est pas nécessairement étendu comme un dessert parce que ben, c'est présenté et comme tout autre aliment. Fait
Puis c'est
que,
encore là
justement,
qu'il peut faire le choix de...
oui, c'est ça. Puis tu sais, je ne sais pas si toi, tu l'avais expérimenté dans ta famille, tu sais, de mettre les aliments étant dit plus desserts au centre de la table. L'avais-tu déjà
Non?
expérimenté? Non. Nous, ben, tu sais, moi, depuis que j'ai des enfants puis qu'on mange tout le monde en famille à la table, tu sais, avant, je ne faisais pas nécessairement ça dans ma famille, mais bon, j'ai voulu l'inclure, inculquer ça à ma famille. Puis, c'est vraiment fou à quel point on peut manger, mettons, je dis, bon, mettons qu'on mange un spaghetti, ben parfois, ça se peut que je mange une fraise en plein milieu de ma bouchée de spaghetti, puis je continue à manger mon spaghetti, puis que j'ai le goût de manger un petit morceau de chocolat, puis je continue à manger mon spaghetti. Tu sais, des fois, c'est des choses qu'on dit, ben voyons, c'est donc bien étrange, comme, mais c'est comme ça. Puis même mon chum aussi s'en rend compte que, tu sais, des fois, on mange des aliments en alternance, puis c'est correct, tu sais, pourquoi pas? Pourquoi
En
pas l'enfant
effet.
va faire ça, puis pourquoi nous, on le ferait pas, tu sais? Fait que.
Ouais. Moi, j'ai vu souvent mes enfants refuser le dessert parce que il avait plus faim. Ça, mes beaux-parents, c'était pas facile à comprendre, là. Mais tu sais, c'est pas obligatoire non plus d'avoir,
Non.
tu sais.
Non, c'est
Mais
ça. Puis,
au centre de
comme
la
tu
table,
dis,
j'adore ça, là, je trouve que c'est un
c'est ça, en le
bel outil.
présentant au centre de la table, tu sais, on sait qu'on s'assure que tous les aliments sont mis sur le même piédestal. Il n'y en a aucun qui doit être mangé avant que l'autre soit fini. Bref, on n'est pas obligé de finir notre assiette. T'sais. Ils sont là, on le mange, on ne le mange pas. Puis, tu sais, c'est aussi pour essayer de diminuer la pression aux parents de. C'est le seul rôle que l'enfant a, c'est le combien puis le si il mange. Donc, après ça, nous, on a tout mis en place. Au repas, on est supposé d'avoir du plaisir, de discuter notre journée. Puis, tu sais, à la limite, on n'observe même pas qu'est-ce que l'enfant va manger. On a offert la qualité. Après ça, c'est à lui de gérer qu'est-ce qu'il veut manger. Puis après ça, on fait juste s'ajuster. Si on voit qu'il a juste mangé des fraises, mettons, à son repas principal, bien, à la collation d'après, on s'ajuste et on n'offrira pas nécessairement juste un fruit, on va offrir un aliment produit céréalier, un aliment plus avec une protéine ou une matière grasse. Bref, on va venir s'ajuster pour qu'au final, on vienne
Compléter.
combler ses besoins puis qu'on vienne compléter ses repas de cette façon-là. Exactement.
Puis ce que j'adore là-dedans, c'est l'espèce de d'abandonner le contrôle. On est très contrôlant sur mange ci, mange ça, mange pas ci, mange pas ça.
Ouais.
Fait que tu sais, j'adore le fait de il a le droit de dire si je le mange. En tout cas, c'est bien parce que
Oui.
toute l'histoire de. C'est un autre sujet, là, mais l'anxiété de performance est jusque-là, là, tu sais, un
Ouais,
contrôle
exactement. On veut
tellement
contrôler la
insécure qui manque de nutriments,
Définitivement.
insécure qui mange pas assez, insécure qui
Ouais.
mange trop. Tu sais, je veux dire, fait que, bref, c'est une belle opportunité de laisser aller le contrôle puis de faire confiance aux
Exactement.
mécanismes internes de bébé, là, dans le
J'ai
fond.
oublié de le mentionner, mais exactement, le faire confiance. Puis des deux côtés, nous, on fait confiance à ce que notre bébé écoute ses besoins, écoute ses signaux. Puis tu sais, après ça, ben, c'est dans les suivis médicaux qu'on peut. Tu sais, s'il y a une belle croissance, mais tant mieux. Après ça, s'il y a, tu sais, une problématique quelconque, on peut s'ajuster tout en continuant d'offrir cette façon de faire. Là, tu sais, on peut ajouter plus de matière grasse. Après ça, on peut consulter une nutritionniste ou un autre professionnel pour voir s'il y a d'autres problématiques, d'autres ajustements. Mais ça pour dire que,
La confiance.
oui, la confiance. La confiance aussi que l'enfant, il nous fait, en fait, sur. On fait confiance à l'enfant sur reconnaître ses besoins, mais lui, il nous fait confiance sur qu'est-ce qu'on lui offre, puis l'environnement, l'ambiance qu'on lui offre aussi. Parce que c'est sûr que si on met toujours de la pression sur un enfant de manger, 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 ou finir son repas, tout ça, bien, ça devient anxiogène. Puis là, bien, il peut en sortir des comportements plus néfastes, puis une relation à long terme avec certains aliments ou avec son corps plus néfaste aussi. Ça, c'est ce qu'on veut conserver chez l'enfant. Ils ont une relation 100% optimale avec leur corps puis les aliments. On veut conserver ça le plus longtemps possible. Nous, on a été un peu biaisés avec la culture des diètes, tout ça, mais on veut essayer de défaire cette petite bulle-là. Puis, tu sais, si on n'est pas à l'aise nécessairement de mettre le repas au centre de la table dès à ce que l'enfant s'alimente autour de 6 mois, ben on peut quand même, tu sais, si on veut quand même offrir une alternative autre ou un dessert, entre guillemets, après le repas, ben on l'offre que l'enfant ait consommé son aliment, son repas principal avant ou pas. Toujours continuer à l'offrir. Parce que s'il n'a pas mangé son repas, puis qu'on lui dit, ben, tu n'as pas mangé ton repas, tu n'auras pas le droit à ton dessert, ben là, on vient de mettre le dessert sur un piédestal.
On vient de créer un
Fait que, tu sais,
interdit.
exactement. C'est pour ça l'importance de souvent offrir des aliments qui sont nutritifs, que ce soit en dessert ou pas. Mais tu sais, la plupart du temps, ben, une compote, un yogourt, un muffin, des aliments plus nutritifs. Puis plus que l'enfant va grandir, tu sais, en haut de 2 ans, ou bon, quand on est à l'aise, ben, on peut commencer à inclure des aliments qu'on mange aussi sur une base régulière. Tu sais, si on fait, je sais pas, on fait une tarte aux pommes, ben, ça sera une tarte aux pommes, puis tu sais, qu'il ait mangé son repas ou pas, qu'il l'ait mangé à moitié ou pas, ben,
On
si le reste de la
l'offre.
famille, oui, tu sais, c'est pour ça, s'il est présenté sur le centre de la table, ben, il est là, ben, il faut quand même l'offrir, pour pas que ça devienne un aliment interdit ou un aliment qui est inatteignable, là, si je finis pas mon assiette.
Exactement. Puis comme je dis, c'est surprenant que des fois que les enfants, ils savent, ils ont plus faim.
Et oui,
Le
c'est
goût est
ça,
même
puis.
pas là. Si l'interdit est... Je comprends la culture de l'interdit, là, l'espèce de...
Ben,
J'avais
c'est
jamais vu ça.
interdit, mais là, c'est disponible, fait que je vais en manger en quantité industrielle. C'est là que la relation avec l'aliment est biaisée.
Ouais.
Fait que tu l'as bien dit, puis tu sais, même des fois, je suis agréablement surprise d'entendre mon éducatrice me dire, ben, crème, Maverick, qui ne voulait pas son dessert aujourd'hui. Pourtant, c'était telle affaire, puis c'était super bon, super sucré, ou je sais pas. Tu sais, je me dis, ben, tu sais. C'est parfait, tant mieux, il a appris, puis tu sais, ça va être tenté une fois, puis ça ne tentera peut-être pas l'autre fois. Puis ça, c'est une des choses aussi, je saute du coq à l'âne, là, mais que je retravaille aussi avec les jeunes familles. Mais des fois, les enfants vont aimer quelque chose, puis le lendemain, ils n'aimeront plus ça, puis le surlendemain, ils vont l'aimer. Bien, ça fait partie de l'expérience, de l'apprentissage des aliments. Hein. Fait que, tu sais, des fois, on peut offrir, puis ça, c'est le classique exemple, mais on peut offrir un brocoli 20 fois, il ne mangera pas. Mais la 21e fois, il va le manger. Et après ça, il ne mangera plus. Mais ça fait partie de l'expérience. Puis, tu sais, l'important, c'est de continuer à offrir ces aliments-là. Même s'il ne les mange pas, ça fait partie de l'offre alimentaire. Tout quand on continue l'exposition à ces aliments-là, mais l'enfant, il voit. Il voit son parent le manger. Il voit ses frères et sœurs le manger. Puis, le crème, ça n'a pas de l'air si méchant que ça. Tu sais, si mes parents le mangent, puis, tu sais. On l'offre, mais sans pression. Il est dans son assiette ou il est présenté sur la table, mais au moins il y a une exposition visuelle. Et ça, c'est important à mentionner, que ce soit un aliment aimé ou non, de continuer toujours les expositions avec les aliments.
Donc, qu'est-ce qui, tu sais, à part le besoin d'avoir de l'information, y a-t-il des signes qu'on doit observer pour dire, ah oh là, je devrais peut-être consulter mon médecin ou une nutritionniste ou tu sais, des fois on peut avoir juste besoin de d'être assuré, mais y a-tu des signes précis qu'on peut observer ou en général c'est au feeling, je sais pas comment le dire
Ben,
autrement.
c'est sûr que, tu sais, oui, le feeling va donner un bon indice si on veut avoir plus d'informations, comme tu le dis. Mais des fois, tu sais, si on voit des fois qu'il y a des cassures au niveau des courbes de croissance, tu sais, l'enfant suit plus sa courbe, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ben, ça peut être un signe qu'on pourrait aller voir une nutritionniste. Peut-être qu'au niveau alimentaire, tu sais, il peut y avoir des astuces à ce qu'on peut modifier dans notre alimentation. S'il y a beaucoup d'aversion alimentaire ou une sélectivité alimentaire un peu plus intense, puis là, le parent, ben, c'est souvent le parent qui va être un peu plus anxieux puis préoccupé par ça, puis il va vouloir consulter, puis c'est bien correct, tout en sachant que c'est complètement normal, un enfant un peu plus, soit qui vit une néophobie alimentaire ou sélectif, mais des fois, il y a toujours des petites astuces qu'on peut optimiser dans l'alimentation avec ça. Sinon, un enfant ou une famille qui est plus du type végétalienne, végétarienne, des fois juste pour s'assurer que l'alimentation est optimale au niveau nutritionnel, que l'enfant manque de rien.
Pas mal.
Ouais, puis
Ça fait le
sinon, ben,
tour.
c'est sûr que s'il y a des allergies alimentaires, ça peut être une autre cause, là, mais. Voilà, c'est pas mal ça. Puis des fois, ben, juste aussi familial, on parle spécifiquement de l'enfant, mais des fois, si on veut manger équilibré à petit prix, si on veut avoir des astuces pour cuisiner, des fois, tu sais, en termes de, on n'a pas le temps, on veut, voyons, on veut mieux planifier notre alimentation.
Organisation.
Oui, l'organisation. Sinon, c'est sûr que des fois, en allaitant, des fois, on peut avoir des enfants qui sont allergiques là, à la protéine de lait de vache. Des fois, on doit faire un régime d'éviction. Ça peut être une autre chose. Des fois, en grossesse, si on a une préoccupation à l'égard de notre poids ou à l'égard de certains aliments, on sent que notre relation avec les aliments est plutôt biaisée, on a le goût de toujours manger tel aliment, puis, tu sais, ça devient accaparant, ben, ça peut être une raison aussi de consulter une nutritionniste pour qu'au courant de la grossesse, puis après la grossesse aussi, t'sais, si on est plus préoccupé par notre poids, l'apparence, tout ça, vu que notre corps change, ben, ça peut être une raison de consulter une nutritionniste. Il peut y avoir plusieurs raisons là,
Oui, mais tu as fait
pour
un beau
consulter
listing.
une nutri. Oui. Puis ça, ben, là, c'est encore en train de mijoter, là. Pour le moment, tu sais, où ce qu'on peut me consulter, c'est via Facebook, Instagram, c'est mes réseaux sociaux. Mais là, mon site web s'en vient, là. Fait que, tu sais, tout ça va pouvoir être mis là, sur mon site web, là, sur quand consulter, quoi consulter, les tarifs, les modalités, tout ça, là. Mais j'ai bien hâte
Puis,
que ça se mette en branle.
t'as-tu déjà le nom de ton site Internet, même s'il n'est pas en ligne?
Non.
C'est-tu... Non?
Non.
Quand tu
C'est
l'auras, tu me le
tout
diras, je le
récent,
mettrai.
là. Je viens de
Ah
commencer ça avec une équipe, là, ouais. Pendant tout
oui!
mon congé de maternité, je m'étais dit, je vais faire moi-même mon site web. Puis, j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc, là, c'est pour ça que j'ai consulté une équipe, là, qui va m'aider
OK.
à
Ouais.
le construire, là. Mais d'ici quelques mois, là, il va être sorti. Je t'enverrai les liens à ta délire.
Parfait. Puis, tes consultations, c'est-tu en présentiel, c'est-tu en ligne, ou les deux?
Présentement, c'est principalement en ligne, donc que la famille vienne de mon ami ou d'ailleurs, c'est super accessible de jour, de soir. Mais j'en fais quelques-uns en présentiel. Là, pour le moment, c'est au physio-ergo à mon ami. Mais éventuellement, dans les prochains mois, je vais avoir un bureau à moi aussi. Donc, c'est ça, je vais pouvoir en avoir plus en présentiel.
OK. Est-ce que tu es encore au 6? Ou si là, tu te consacres juste au privé ou tu vas faire
Pour
les
le
deux?
moment, je vais faire encore les deux. Ouais, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes là, pour moi, pour le moment.
Bon, c'est parfait. Fait qu'on
Ouais.
va mettre, on va mettre les liens de tes réseaux dans la description de l'épisode. Fait que ça va être facile pour les gens de te rejoindre.
Parfait.
Quelque chose à ajouter en conclusion?
Non, merci de l'invitation.
On a fait le
C'est
tour.
toujours
Ben, ça
un
me fait
plaisir pour moi.
plaisir. C'est super. Bien, merci beaucoup, Sarah. Puis, je te dis à bientôt. Profite de ta grossesse en cours et
Merci.
je te dis à bientôt. Porte-toi bien.
Oui, bye-bye.
Bye. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel, et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors, au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.